Le journal Pérez Batubi. Joseph Kabila à Goma, dans la province du Nord Kivu, depuis hier soir. Une visite qui intervient peu après les affrontements de Sake entre les troupes fidèles à Laurent Kunda et les FRDC brassés. Avant d'aller à Goma, le président de la République a rencontré le vice-président Bemba. Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba ont notamment abordé des questions de sécurité à Kinshasa, nous dira Vital Kamere. La lutte contre le sida en RDC, presque inexistante dans les parties enclavées du pays, constat fait par Radio Okapi dans l'Équateur à l'occasion de la Journée mondiale contre le sida. Voilà tout pour les titres. Okapi. Mesdames et messieurs, bonjour. Deuxième jour du séjour du président de la République, Joseph Kabila à Goma. La visite du chef de l'État dans la province du Nord Kivu a eu lieu après des combats qui ont opposé le week-end dernier les forces loyalistes aux éléments insurgés fidèles au général déchu Laurent Kunda de Goma. Rosalie Zawadi pour les détails.
Depuis son arrivée jeudi en début de soirée à Goma, le président de la République n'a fait aucune déclaration. Rien n'a été officiellement dit sur le programme de son séjour au Nord Kivu. Ce qu'on sait est que Joseph Kabila arrive à Goma dans un environnement post-affrontement armé qui ont opposé durant 4 jours les militaires FARDC aux éléments de la 81e brigade et ceux de la 83e dans la localité de Sake, à près de 30 km de Goma. Des jours avant son arrivée, c'est le ministre de l'Intérieur qui a séjourné à Goma et qui a chargé les barres à la Oise du Nord Kivu de demander à Laurent Kunda de laisser libre accès aux véhicules des commerçants sur l'axe Massissi-Goma et de libérer les militaires qu'il tient en otage afin que ces derniers aillent au brassage. À l'issue de la rencontre qui a regroupé hier les membres du Baraza et Laurent Kunda dans son fief de Kilolirwe, Laurent Kunda s'est dit favorable aux demandes du gouvernement. Très prochainement, il va présenter ses revendications au gouvernement à travers un cahier des charges. Depuis Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
À propos de cette visite du chef de l'État au Nord Kivu, Vital Kamere, secrétaire général du PPRD, affirme que le chef de l'État est dans la région pour réconforter la population. Écoutons-le au micro de Guy Maté.
Le président est venu ici pour rendre visite aux militaires qui s'en font, réconforter leur morale, donner des instructions précises pour que l'aventure d'un Kunda puisse être enrayée totalement. Mais aussi venir réconforter cette population de Goma en général et celle de Sake en particulier qui doit avoir et qui a des problèmes humanitaires très 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 sérieux. Et c'est pourquoi d'ailleurs, de ce pas, nous devons nous rendre à Sake pour aller parler avec le notable de Sake, avec le curé de Sake, pour que le président voit ce qu'il peut faire dans le cadre de ce qu'on peut appeler des actions d'urgence pour assister cette population. Mais pour le reste, les mesures sécuritaires relèvent du secret de défense. Et ce n'est pas à moi, Vital Kamere, que vous allez demander, civil de son état, de vous dire quelles sont les mesures qui ont été prises pour que Kunda soit anéanti. Mais tout ce que je vous dis, c'est ça l'objectif.
Rencontre Kabila Bemba hier à Kinshasa, selon le secrétaire général du PPRD, le parti présidentiel qui a accompagné le président de la République à la résidence du vice-président Jean-Pierre Bemba. Cette visite est importante à plus d'un titre. Elle démontre entre autres la volonté du chef de l'État d'impliquer tout le monde dans les efforts de la reconstruction nationale. Par ailleurs, ce dernier affirme que le vice-président Jean-Pierre Bemba ainsi que d'autres vice-présidents garderont certains avantages dus à leur rang. Vital Kamere et a été joint par Guy Maté.
La visite du président de la République auprès de M. Jean-Pierre Bemba, vice-président de la République, révèle une double signification. La première, le président a voulu d'abord montrer à tous les peuples congolais qu'il est le président de tout le monde. La deuxième, c'est de dire à tout le monde qu'une page de notre histoire de 46 ans de misère doit être tournée. Nous devons nous souder les coudes, nous réconcilier entre nous pour qu'ensemble nous puissions aller au rendez-vous de la reconstruction avec ceux qui ont gagné et avec ceux qui ont perdu. Le président allait rassurer le vice-président Jean-Pierre Bemba. Vous devez savoir que Jean-Pierre Bemba, comme tout être humain, avait des inquiétudes, tout comme le président Kabila aussi, en regardant les comportements de certains éléments incontrôlés qui se réclamaient du vice-président de la République, avait aussi des raisons de se sentir en insécurité. Il fallait donc que les deux se rencontrent pour qu'ils puissent se dire, les yeux dans les yeux, que nous devons œuvrer pour la sécurisation de notre pays.
Quel sera le statut de M. Jean-Pierre Bemba après la prestation de serment du chef de l'État et quel sera l'essor de sa garde?
Le président de la République, au moment où je vous parle, a déjà signé un décret qui reconnaît non seulement M. Jean-Pierre Bemba, à tous les vice-présidents sortants de garder certains avantages. Mais je dois vous dire qu'il garde un minimum d'éléments de sécurité, il garde une partie des véhicules officiels et ils seront logés par l'État.
Toujours en rapport avec les résultats définitifs de la présidentielle en RDC, le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, a salué l'élection de Joseph Kabila à la présidence de la République démocratique du Congo, élection qu'il qualifie de brillante. Monsieur Sassou Nguesso exprime l'espoir que l'élection de Monsieur Kabila puisse renforcer la paix et la sécurité en RDC. Pour sa part, le président ivoirien Laurent Gbagbo a félicité vendredi Joseph Kabila pour son élection à la présidence de la République démocratique du Congo, estimant qu'elle permettra d'opérer les changements nécessaires afin de relever les défis du développement. Publication des résultats provisoires des élections provinciales à présent. L'annonce vient d'être faite tout à l'heure au Grand Hôtel de Kinshasa par le président de la Commission électorale indépendante. Ces résultats peuvent être consultés sur le site de la CEI, www.cei-rdc.org. L'abbé Apollinaire Malumalu donne quelques précisions. Ces propos sont recueillis par Jacques-Yves Molima.
Les résultats provisoires de l'élection des députés provinciaux du 29 octobre 2006 se présente comme indiqué dans le tableau joint en annexe à la présente. Sur la répartition des sièges dans les circonscriptions comptant un seul siège à pourvoir, est proclamé élu le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix. Dans les circonscriptions comptant deux sièges et plus à pourvoir, après l'attribution des sièges aux listes en compétition suivant la répartition proportionnelle avec l'application de la règle du plus fort reste, sont proclamés élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sur les dites listes. Dit que les résultats provisoires seront publiés et transmis au cours d'appels compétentes.
Il y a plus de 10 ans que la République démocratique du Congo s'associe au monde entier pour célébrer chaque 1er décembre la journée de lutte contre le sida. Malgré les efforts du Programme national de lutte contre le sida en RDC, la province de l'Équateur a encore un grand travail à fournir. Toutes les structures de lutte ne sont concentrées que dans des grandes villes. Régine Bokoumanzango pour le reportage.
Selon le Programme national de lutte contre le sida, la province de l'Équateur atteint une prévalence de plus de 5%. Mais certains activistes engagés dans la lutte contre la pandémie estiment que ces statistiques ne sont qu'approximatives, car toutes les structures de lutte et de prise en charge des maladies restent plus opérationnelles dans des milieux urbains que dans l'arrière-province, notamment en Mbandaka, Badolité, Gemena, Lisala et Bassankoussou. Rares sont les localités qui, à ce jour, organisent des activités de dépistage et de lutte contre le sida à l'Équateur. Un fait que regrette Jean-Marie Bolika, le coordonnateur de l'ONG Initiative Locale pour le Développement Intégral dans les territoires de Tcholou. Mais comment faire pour lutter efficacement contre le sida à l'Équateur? Jean-Marie Bolika propose.
J'insiste sur l'opérationnalité du programme national multisectoriel de lutte contre le sida, que ce programme puisse disposer des moyens conséquents pour mener à bien son action. Et ensuite, du gouverneur de province qui soit totalement impliqué dans la lutte contre le sida, lui et ses collaborateurs, notamment les conseils de district et les administrateurs de territoire. Et en plus de cela, la mise en place des structures de dépistage volontaires dans chaque territoire. Mais en plus, il y a l'implication des jeunes.
Les grands souhaits de la population à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du sida 2006 est de voir les organismes humanitaires et des structures de prise en charge de la maladie s'implanter dans l'Équateur profond. Mbandaka, Régine Bokoumanzango, Radio Okapi.
Dans le même volet, au Kasaï occidental, la coordination du Programme national de lutte contre le sida décrit l'augmentation du taux de prévalence du sida dans la ville de Chikapa. D'après ces enquêtes, le taux de 7,8% enregistré dans cette ville est trop inquiétant, d'où la nécessité de renforcer les activités de sensibilisation et de dépistage volontaire dans cette ville pour prévenir et surtout réduire la propagation. Dr Davis Kabongo, coordonnateur provincial, est au micro de Pierrot Elamegi.
La séroprévalence à Chikapa est la prévalence qui est élevée même au niveau du pays. C'est le fait que Chikapa régorge des carrières minières. Il y a un trafic intense, il y a assez de professionnels de sexe, et le trafic de la drogue étant, le trafic du sexe étant, la prévalence ne peut être qu'augmentée. Donc, les stratégies, c'est d'abord la sensibilisation pour un changement des comportements. La deuxième voie, il faudra qu'on crée normalement des conseils de pistage volontaire où les personnes y vont, ils sont informés de ce que c'est le sida. Pour ceux qui seront personnes vivant avec VIH, mais éligibles au traitement. On va les mettre sous traitement ARV. Je pense qu'on peut réduire sensiblement ces taux de prévalence dans notre province.
Journée mondiale de lutte contre le sida, toujours à Bukavu. Ils sont plusieurs centaines à défiler sur la terre principale de la ville pour l'occasion. Bukavu, où se trouve la seule usine de la République démocratique du Congo qui fabrique des antirétroviraux. Au moins 180 000 Kurdes sont produits tous les mois dans cette usine pharmaceutique de la Pharmakina, et ce depuis 2 ans. Selon le médecin-chef du programme SIDA à la Pharmakina, les antirétroviraux produits à Bukavu peuvent répondre à toute la demande de l'Afrique centrale. On écoute le docteur Pierre Prince-Louindjiré au micro de Serge Maéché.
Nous sommes en mesure de produire jusqu'à 180 000 cures par mois, soit une moyenne de 6 000 cures par jour. C'est amplement suffisant pour répondre aux besoins de la communauté du Sud-Kivu, du Congo et de l'Afrique centrale. Il y a des personnes qui bénéficient des soins gratuitement et il y a des personnes qui payent leurs propres soins. Pour le moment, une cure d'Afrivir, l'antirétroviral central produit à la Pharmakina, coûte 22 dollars par mois. Les matières premières sont importées. Tout ce qui est là-bas est importé. Même la technologie, c'est un transfert de technologie de ce qui se fait en Europe. C'est cela même qui se fait ici à la Pharmakina Bukavu. Nous sommes en train de tout mettre sur pied pour que nos antirétroviraux puissent conquérir les marchés internationaux.
Économie à présent au Kassai Oriental, flambée des prix des denrées alimentaires sur le marché de Mbujimayi depuis bientôt 3 jours. L'autorité urbaine explique cette hausse des prix par plusieurs difficultés, notamment le trafic ferroviaire, l'interruption du trafic sur la route Lubao-Kabinda-Mbujimayi à cause de la panne que connaît le bac sur la rivière Lomami, mais aussi la dégradation des routes suite aux pluies diluviennes que connaît la province. Des détails avec Esther Ndalafina.
Un méca de maïs, une unité de mesure d'environ 3 kg qui coûtait 350 francs congolais revient à 950 francs congolais. Autant pour un méca de farine de manioc qui passe de 350 à 500 francs congolais. Cette flambée de prix touche tous les produits, aussi bien les produits alimentaires que manufacturés. Contacté à ce sujet, l'autorité urbaine souligne qu'il y a plus de 60 wagons de produits agricoles bloqués depuis 11 mois sur la voie ferroviaire, la panne du bac de Lubao et la dégradation des routes de dessert agricoles en cette période pluvieuse. Marcel Innocent Kingomana, maire de la ville de Mbujimayi.
Il y a plus de 11 mois, il y a du fonctionnement du côté des rails. Les wagons de maïs n'arrivent pas, comme on a dit. C'est plus de 60 semaines traînerait là-bas, Kamina, pour que ça arrive à Mwenedi. Il y a abondance de pluie qui a endommagé toutes les voies de ravitaillement en interne. C'est au courant que le bac de Makola à Lubao est coupé. Il n'y a pas de véhicule qui entre. J'ai fouillé tous les dépôts, il n'y a pas de maïs, parce qu'il n'y a pas rivage.
Du côté de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Mbujimayi, Willa Bukasa, vice-président urbain, parle de la loi de l'offre et de la demande, tout en évoquant le dysfonctionnement de la SNCC depuis plus de 10 mois. Le chef de district SNCC, Moneditu, indique que quelques locomotives sont en réparation. Le trafic pourra s'améliorer dès la semaine prochaine. L'année dernière, à la même période, le maire de la ville de Mbujimayi avait pris des mesures, particulièrement l'exonération des taxes en vue de maintenir le prix sur le marché. La ville de Mbujimayi dépend de la production agricole du Katanga et du Kassai occidental. Mbujimayi, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
En province orientale, à Kisangani, les prix des denrées alimentaires de première nécessité ont pris également l'ascenseur. Les prix de certains produits, notamment le riz blanc, arachide, huile de palme, maïs et autres, ont doublé, voire même triplé dans les grands marchés de la ville. Pour cause, la forte montée des eaux du fleuve empêche les armateurs de ces produits de venir à Kisangani. Des précisions avec Aliana Alipagana.
Il s'agit plus particulièrement des denrées alimentaires en provenance des localités situées en aval du fleuve Congo. Ces produits sont acheminés à Kisangani par des grosses pirogues. Avec la montée spectaculaire des eaux du fleuve Congo, constatée ces dernières semaines, les armateurs hésitent d'engager leurs embarcations par crainte de naufrage avec le courant fort du fleuve. Ont constaté le jura du marché IAT au bord du fleuve. Conséquence, les prix des produits de consommation courante ont galopé, constat également fait par les femmes ménagères. À titre d'exemple, un bidon d'huile de palme de 20 litres est passé de 4 000 à 6 000 francs congolais. Un panier de courgettes de manioc coûte actuellement 3 500 au lieu de 800 il y a une semaine passée. Un gobelet d'arachide s'achète à 280 francs congolais au lieu de 160. Le sac de braise et le bois de chauffage se font également rares sur les marchés. Toujours à cause de la crue, les marchés IAT et Djoubou-Djoubou, deux des grands de la ville, sont inondés et devenus inaccessibles aux vendeuses et vendeurs. Aliana Alipanagama, Kisangani, Radio Okapi.
C'est la fin de ce journal sur www.radiocapi.net, sur notre site internet ou en ondes courtes sur 11 890 kHz. Retrouvez ce journal.